C'est l'histoire.
L'histoire.
Avec un grand I.
Quelle histoire?
Chaque semaine, la fine équipe de l'histoire avec un grand I étudie avec vous un nouvel événement historique.
Parmi les événements historiques et fondateurs d'un pays, on pense généralement à des dates d'indépendance, des révolutions, des guerres gagnées contre un envahisseur. Le 14 juillet, jour de la fête nationale depuis 1880 en France, est de cela, étant généralement associé à la commémoration de la prise de la Bastille de 1789. Pour revenir avec moi sur ce fait historique, la prise de la Bastille, nos historiens préférés, bonjour Alexandre Belin.
Bien bonjour.
Bonjour Julien Marel.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour Bastien Arnaud.
Bonjour.
Bienvenue dans l'histoire avec un grand I.
L'histoire avec un grand I sur Prune.
Alors messieurs, première question pour vous. Est-ce qu'on peut replacer le contexte historique qui entoure la prise de la Bastille de 1789? Dans quelle situation se trouve la France? Qui sont les grands protagonistes?
Alors, on est en 1789. Le pays est gouverné par Louis XVI. Et Louis XVI est un dirigeant... un souverain plutôt mal aimé, le peuple gronde. Le peuple gronde dans les rues, et Louis XVI, pour pallier à ça, donc le peuple souhaite de la démocratie, souhaite plus de liberté, on est sur un régime presque dictatorial de Louis XVI, et Louis XVI, pour pallier à ça, décide d'organiser un grand jeu. Un grand jeu qui va s'appeler la prise de la Bastille. Donc Louis XVI a caché... une réplique de ce monument très connu de la Bastille, une réplique de 15 cm par 30 par 10, il l'a cachée quelque part dans Paris, et la personne qui sera en mesure de trouver cet objet pourra décider du prochain régime politique français.
D'accord, donc là ce que vous décrivez c'est un jeu de cache-cache, grandeur nature.
Une sorte de chasse au trésor.
C'est une chasse au trésor.
Ok, donc on est en 1789 et tout Paris cherche cette figurine, grosso modo, du petit bastion de la Bastille.
Tout le monde cherche la Bastille.
C'est ça. Le roi Louis XVI lance l'opération prise de la Bastille le 2 décembre 1788. Ça n'a pas commencé en 1789. Et envoie des télégrammes un peu partout en France. Pour alerter les Français de que le jeu commence. S'ensuit alors une petite, quand même, vague migratoire des Français vers la région parisienne, parce qu'on savait quand même, dans le prospectus, Louis XVI disait bien que la réplique du petit bastion de la Bastille était cachée à Paris. Et donc, du coup, certains Français ont eu envie de venir se prêter au jeu pour pouvoir décider du prochain régime politique français.
Alors ça, c'est le premier indice que donne Louis XVI, mais il y en aura eu d'autres par la suite. C'est aussi donc effectivement à cette époque que Paris devient la ville la plus peuplée de France, auparavant Montauban. Et donc les Français cherchent la Bastille partout, mais des émeutes éclatent le 15 février 1789, lorsque... une figure d'opposition de l'époque, Simon le Petit, émet l'hypothèse dans la presse que la Bastille n'existe pas et que Louis XVI, pour garder le pouvoir, a inventé la prise de la Bastille et donc n'a rien caché en réalité, et que les Français sont dans une chasse au trésor qui est vouée à un échec.
Si je peux juste me permettre, c'était assez osé quand même à l'époque de faire ça, parce que tout le monde y croyait. Hein. C'était vraiment le jeu que tout le monde parlait. Tout le monde s'est vraiment pris au jeu, on peut le dire. Et tout le monde ne pensait qu'à ça, ne parlait que de ça. Et c'était vraiment
l'effervescence du sujet, du jeu de la Bastille, autour de la prise de la Bastille.
Tout à fait.
Et du coup, avant de voir quel était l'impact de cette annonce, est-ce qu'on peut aussi dire qui participait à ce jeu? Est-ce que c'était tous les Français, ou est-ce qu'on peut être un peu plus précis?
Alors, c'est ça qui était assez fort, c'est que ça réunissait vraiment tous les Français. Clergé, noblesse, tiers-état, tout le monde jouait au jeu. Il y a d'ailleurs beaucoup de tableaux qui représentent cette espèce de mix des trois états généraux français à ce moment-là, où on voit vraiment des prêtres baissés dans la boue en train de chercher la petite Bastille. Et de la noblesse aussi qui vient un peu se salir les mains et essayer de déterrer des choses, de soulever des pavés et de voir s'il n'y a pas la petite Bastille en dessous, quoi.
Alors, on cherchait en équipe, en fait, à l'époque. C'est presque les premiers partis politiques, en réalité. En tout cas, les partis politiques modernes qu'on connaît en France. Puisque les Républicains, précédemment UMP, c'était un parti politique qui date de cette époque-là, de 1789, où ils se réunissaient par idée, en fait, de qu'est-ce que doit être la France. Ils se réunissaient pour chercher ensemble la Bastille, pour que si jamais ce parti trouve la petite Bastille, bah, ils aient après un commun accord sur une vision de la France. Et donc, bah, forcément, si on est 100 à chercher, on a 100 fois plus de chances de trouver.
Donc très intéressant, parce que ça a créé des discussions entre le peuple pour définir, voilà, quel modèle de société on veut pour le futur.
Ce qui est assez fort, c'est que justement, comme disait Julien Marel, ça a créé des sortes de petits partis, ça a joué en équipe et ça a créé ce qui est l'ancêtre de nos partis politiques contemporains. Et en fait, la manière dont ils se sont mis d'accord en équipe pour chercher la petite Bastille, ils ont dû mettre des règles qui sont des règles de société, en fait, avec faire ressortir un leader, des rôles très d'outils, en fait, très précis, spécialisés sur telle personne était là pour juste déterrer des pavés pendant que quelqu'un lui disait où déterrer le pavé. Donc ça a vraiment créé le début de nos partis politiques contemporains.
Est-ce qu'on peut décrire une journée type d'un participant à ce grand jeu ?
Alors, bien sûr, une journée type, et même, il n'y a pas vraiment une journée, en fait, c'était du continu hein, à l'époque. Hein. C'était les équipes se...
jour et nuit.
C'était jour et nuit, ah oui, bien sûr. Et du coup, la journée type commençait vraiment à 6h, où il y avait c'était un peu le rendez-vous, où tout le parti politique se rassemblait, et où on donnait les grandes décisions de la journée et de la nuit à venir.
Où on allait creuser,
exactement.
Quel immeuble on allait retourner pour essayer de trouver la petite Bastille.
Quel était le menu du jour, enfin vraiment tous les points.
Chose plus logistique aussi, logistique.
Ensuite partaient les éclaireurs, on les appelait les éclaireurs, partaient aller chercher, les cuisiniers cuisinaient, et il y avait toujours le petit groupe de renfort, car si on s'approchait du but, si on sentait que la petite Bastille était dans un coin, on appelait les équipes de renfort qui, eux, dormaient.
On les appelait les bastonneurs.
Les bastonneurs, exactement. Et eux restaient à la caserne dormir. Donc eux, ils étaient vraiment hyper en forme, car à tout moment, on les appelait et ils allaient donner main forte aux éclaireurs pour trouver la petite Bastille.
Ah, ils allaient les protéger, surtout.
Et pour la défendre.
Et pour la défendre. Bon, c'est pour ça qu'on les appelait les bastonneurs. C'est qu'au moment où on voyait qu'une autre équipe se rapprochait peut-être du but, ça créait des tensions et on avait envie de venir leur voler la petite Bastille sous le nez. Et donc, s'en suivait beaucoup de rixes et de bagarres dans tout Paris. J'aimerais rajouter aussi que c'est à ce moment-là, c'est à cette époque-là, du coup, qu'on a commencé à avoir des arrondissements, parce que c'est là qu'on a quadrillé la ville pour les recherches. Les arrondissements de Paris sont nés à ce moment-là, on quadrille la ville et on se dit on va chercher dans le 3e à ce moment, cet après-midi, on va chercher dans le 16e, etc. etc.
Et donc une vraie organisation d'échelle. Vous parliez, juste avant qu'on décrive un petit peu les participants, de cette émeute qu'il y a eu en février.
Le 15,
Le 15.
Est-ce qu'on peut décrire l'impact qu'a eu cette annonce de l'opposition et comment ont réagi en fait, les participants et participantes au jeu ?
Alors, les participants participantes commencent par se battre entre eux. En fait, de frustration, il y avait des combats qui éclataient en pleine rue, mais pour aucune raison. Hein. Deux gens qui faisaient partie de partis de recherche opposés se battaient. Et puis là, on se rend compte que Simon le Petit aimait l'idée qu'en fait, si c'est si difficile de trouver, c'est peut-être parce qu'il n'y a rien de caché. Et donc là, les partis ensemble se retournent contre Louis XVI, vont manifester devant son château. Et Louis XVI fait le lendemain, le 16, une annonce. La Bastille va être recachée.
Elle était trop dure à trouver.
Elle était trop dure à trouver. Louis XVI dit qu'elle était trop dure à trouver. Soi-disant, elle aurait été...
Il a fait guillotiner la personne qui a été responsable de cacher la petite Bastille.
Mais si la personne avait effectivement caché quelque chose, parce qu'en fait, est-ce qu'il y avait une Bastille cachée avant le 16 février ? Ça, on ne le sait pas. Mais par contre, le 16 février, là... Il y a un huissier de justice qui vient valider que une Bastille a bien été cachée dans Paris, et donc on sait qu'à partir de là qu'on cherche quelque chose qui existe.
Il existe et qui donc, est caché à nouveau, ou peut-être caché pour la première fois.
Voilà, donc là, la recherche, on considère que la recherche commence pour de vrai le 16 février, et là, donc, il y a une énergie renouvelée en fait, de tous les partis de recherche à ce moment-là.
Est-ce que ça suffit à calmer tout le peuple français et créer vraiment une énergie d'unité pour que tout le monde se remette à chercher ?
Ça calme pas tout le monde. À ce moment-là, les Vendéens rentrent chez eux, quand même. Hugues Le Potier, qui est une des grandes figures vendéennes à cette époque-là, qui est d'ailleurs très, qui revendique beaucoup un anti-royalisme. C'est vraiment contre le roi. Les Vendéens sont très anti-royalistes à cette période-là et décident de ne pas croire le roi et de rentrer chez eux.
Voilà, ils en ont marre, ils participent plus au jeu. Bon, néanmoins, tout le reste du peuple français
tout
continue.
Le reste continue.
Oui, tout le reste continue, parce qu'il faut savoir, il y a un métier qui était assez difficile à l'époque, c'est le métier de cacheur. Car celui qui cache la petite Bastille se fait immédiatement tuer après par le roi lui-même, pour que personne ne puisse lui demander où se trouve la petite Bastille. Du coup, il y a eu un premier cacheur qui est décédé, Alphonse Daudet. Pas confondre avec l'autre Alphonse Daudet, aussi connu. Du coup, le deuxième cacheur, lui aussi, se fait tuer de la main du roi, ce qui était un peu décrit à l'époque, mais pour que ce soit le plus juste possible pour gagner le jeu, c'était effectué devant donc tout le monde sur la grande place, pour que le peuple puisse vraiment voir, ok, le cacheur est décédé, on peut recommencer la fouille.
Et là, y a aussi, donc vous parliez de ce métier de cacheur qui est difficile parce que on est tué immédiatement après, donc pas facile. Mais il y a aussi le métier d'huissier, en fait. Donc les huissiers avaient des indices, donc les huissiers de justice chargés de valider que la Bastille était cachée, avaient des indices. Ils n'avaient pas la localisation précise, mais ils savaient à peu près dans quel arrondissement, ils savaient si c'était dans un bâtiment en sous-sol. Et donc ces huissiers sont envoyés en Corse, sur une île loin de la capitale. Mais il y a des gens qui font le trajet pour aller les voir, pour essayer de les harceler, de trouver des indices. Et c'est à ce moment-là que Louis XVI décide de arrêter d'harceler les huissiers, ça ne sert à rien, ça va créer des inégalités entre les parties. Et donc Louis XVI décide de commencer à lui-même divulguer des indices, à donner des indices au fil de l'eau pour que les gens... pour qu'ils ne se reproduisent pas un deuxième 15 février, en fait, que les gens continuent de penser que la Bastille existe, qu'ils ne soient pas frustrés par la recherche et aient l'impression de se rapprocher du but.
Voilà, Louis XVI qui divulgue les premiers indices de cette grande chasse au trésor de la prise de la Bastille de 1789. Vous êtes bien sur l'histoire avec un grand I, on se retrouve juste après la pause musicale.
Mon ami qui croit que tout doit changer, te crois-tu le droit de t'en aller tuer les bourgeois? Si tu crois encore qu'il nous faut descendre dans le creux des rues pour monter au pouvoir, si tu crois encore au rêve du grand soir et que nos ennemis, il faut aller les pendre, dis-le-toi désormais. Même s'il est sincère, aucun rêve jamais ne mérite une guerre. On a détruit la Bastille et ça n'a rien arrangé. On a détruit la Bastille quand il fallait nous aimer. Mon ami qui croit que rien ne doit changer, te crois-tu le droit de vivre et de penser en bourgeois? Si tu crois encore qu'il nous faut défendre un bonheur acquis au prix d'autres bonheurs, si tu crois encore que c'est parce qu'ils ont peur que les gens te saluent plutôt que de te pendre, dis-le-toi désormais. Même s'il est sincère, aucun rêve jamais ne mérite une guerre. On a détruit la Bastille et ça n'a rien arrangé. On a détruit la Bastille quand il fallait nous aimer. Mon ami, je crois que tout peut s'arranger sans cri, sans effroi, même sans insulter les bourgeois. L'avenir dépend des révolutionnaires, mais se moque bien des petits révoltés. L'avenir ne veut ni feu, ni sang, ni guerre. Ne sois pas de ceux-là qui vont nous les donner. Hâtons-nous d'espérer Marchons au lendemain, tendons une main qui ne soit pas fermée. On a détruit la Bastille et ça n'a rien arrangé. On a détruit la Bastille, ne pourrait-on pas s'aimer?
Et nous revoilà dans l'histoire avec un grand I, c'était la Bastille de Jacques Brel. Alors avant de divulguer où était cachée la petite Bastille, on peut revenir sur cet événement, le premier indice divulgué par Louis XVI.
Tout à fait. Alors Louis XVI, donc pour qu'on arrête d'harceler ces huissiers de justice qui sont cachés en Corse, décide lui-même de divulguer des indices et il décide d'en divulguer un par mois. Voilà, pour que les gens continuent d'avoir la hargne, d'avoir l'envie de chercher et qu'ils soient persuadés que la Bastille existe réellement. Et donc le suite aux événements du 16 février où on recache, enfin où on cache, on présume pour la première fois la Bastille, la petite Bastille, le 15 mars, il donne le premier indice.
Là où Louis XVI a sûrement été trop loin et c'est ce qui va précipiter sa chute, c'est que nous savons, avec le prisme de l'histoire, où était la petite Bastille. Et nous pouvons remarquer à quel point les indices de Louis XVI n'avaient rien à voir avec la localisation exacte de la petite Bastille. Il se moquait du peuple, clairement. On se souvient tous de son premier indice, comme vous l'avez dit, Julien Marel. Son premier indice qui était...
Était « Attention aux oiseaux, ils peuvent mordre, malgré leur absence de dents ».
Ça n'avait rien à voir avec où était cachée la petite Bastille.
Donc là, dès lors, le 16 mars, tous les partis de recherche se ruent sur les volières. Des milliers d'oiseaux sont tués. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a réintroduit le pigeon à Paris.
Il n'y avait plus de pigeons.
Quelques années plus tard, parce qu'en fait, tous les pigeons avaient été tués pendant la prise des volières, hein, comme on l'appelle aujourd'hui, le 15 mars. Donc voilà, mais le premier indice n'avait rien à voir. C'était ridicule.
Donc, vous parliez de ce premier indice qui n'a rien à voir, et a priori, les suivants non plus, si j'ai bien compris. Louis XVI jouait un jeu un peu délicat avec son peuple.
Complètement. Le deuxième indice en avril, donc le 15 avril, ce n'était d'autre que « n'allez pas chercher derrière la porte ».
N'allez pas chercher derrière la porte. Donc vraiment quelque chose de mystérieux qui laisse place à l'interprétation.
C'est très énigmatique et ça a retourné la tête des Français. Hein.
Et donc la porte de Clichy, porte d'Orléans, à ce moment-là, tout le monde se rue... à ses portes. Alors, les volières qui sont près d'une porte, alors là, je peux vous dire...
Le combo.
Voilà, combo.
C'était combo, là.
Okay. Donc là, on a vraiment un Louis XVI qui joue un drôle de jeu. Et ça tombe bien, dans l'histoire pour un grand I, on a un spécialiste de Louis XVI, c'est Thierry Lafleur.
Oui, Thierry.
Il est en vacances.
Il est à l'heure actuelle en vacances, mais néanmoins, il s'est rendu disponible pour nous. On va l'appeler.
Le petit chanceux.
Il peut être en Bermuda à Fleur. Hein.
Ah, c'est sûr.
La chance.
Bonjour Thierry Lafleur, est-ce que vous nous entendez bien?
Oui, je vous entends, oui.
Bienvenue dans l'histoire avec un grand I, ça faisait longtemps, vous nous manquiez.
Oui, désolé, il y a un peu de bruit, hein, je suis à la plage.
Vous êtes à la plage?
Oui.
Salut mon Thierry, tu m'entends?
Salut Titi!
Oui, salut, comment vous allez?
Ça va très bien, on parle de Louis XVI.
Ah, Louis XVI, c'est parfait, j'étais justement en train de lire un livre sur lui là. Sur
mais
ça m'étonne pas.
Tu lis sur la plage là un petit peu?
Oui, il fait beau, hein, il y a les enfants là, ils sont pas loin. François, lâche ta sœur. Voilà.
T'as mis ton maillot de bain à fleurs?
Comment?
T'as mis ton maillot de bain à fleurs?
Oui, en fait, comment t'as deviné?
C'est celui qu'on t'a offert à Noël.
oui, je le lâche plus, hein. Là, c'est toutes les vacances avec, hein.
T'es où,
ça se passe bien, vous, l'émission, c'est super.
Oui.
T'es où?
Bon, très bien.
T'es à quelle plage?
Là, je suis en Camargue, là.
Ah, la chance,
voilà. D'où viennent tes parents?
Oui, bien sûr, je suis retourné voir la famille là pour qu'ils voient leurs petits-enfants. François, tu reviens.
Tu leur diras bonjour à tes parents de ma part.
Tu feras un bisou à ta famille.
Il n'y a pas de souci.
Et bisous à Sylvie. Hein.
Ouais.
Oui, bien sûr. Elle est à côté de moi là.
Bonjour, on l'embrasse.
Allez, salut mon Thierry.
Allez, bisous Thierry, salut.
Salut. Allez, bonne émission.
Merci.
Ciao.
Voilà, c'était Thierry Lafleur, spécialiste de Louis XVI, qui nous aidait dans cette émission. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ces indices et ce que ça dit du personnage qu'est Louis XVI à cette époque et vraiment sur la fin de son règne?
Oui, en fait, on sent dans les premiers indices que Il ne souhaite pas que la Bastille soit trouvée. Hein. Les deux indices qu'on a évoqués, là, celle des portes, la volée volière, montrent que il ne souhaite pas que la Bastille soit trouvée. Donc là, là, ça se joue au niveau des conseillers du roi qui lui dit attention, les indices sont un petit peu bizarres. Je ne sais pas où est cachée la Bastille, mais fais attention à toi, Louis, parce que le peuple risque de gronder à nouveau. Et donc c'est là où il se décide de donner l'indice qui sera fatal à son règne.
Un indice simple, même sous le prisme de l'histoire, encore une fois, beaucoup trop simple, qui est le suivant. La petite est dans la grande.
La petite est dans la grande. Effectivement, quand on connaît la fin de l'histoire, ça paraît évident. Mais pourtant, il a donné ça en mai. Il a fallu attendre le 14...
Non, il a donné ça, pardon. Vous me prenez, il a donné ça le 14 juillet.
Ah, le 14 juillet.
Ah oui, ah. Ça c'est un indice bien plus tard. En fait, il y a eu encore les avril...
Je m'y perds.
L'indice de mai et de juin qui ont été pareil, des indices complètement farfelus.
Bidon.
Un sur les posters et un qui évoquait Molière. Donc vraiment, rien à voir. Et donc là, le 14 juillet, il donne l'indice la petite est dans la grande.
Est-ce qu'on peut retracer peut-être, pas minute après minute, mais vraiment cette journée du 14 juillet, quand t'as donné l'indice et qu'est-ce qui se passe après?
L'indice est donné à 6h du matin, donc très très tôt. Mais à l'époque, les Français étaient très matinaux. On se levait vers 5h, 5h30. Et du coup, tout le monde se rassemble sur la grande place, pas loin de l'hôtel de ville de Paris. Et du coup... les gens sont là à 6h, c'est Louis XVI lui-même qui donne l'indice, parce que les gens commencent à en avoir marre. Ils ne voulaient pas que d'autres émeutes se reproduisent. Et du coup, il est là, devant son peuple. C'est une très très belle scène. Il y a eu beaucoup de peintures qui ont été faites de Louis XVI devant son peuple à 6h du matin. Et là, il dit l'indice, la petite est dans la grande, sont les seuls mots qu'il prononce. Et il repart prendre son petit déjeuner.
Et à ce moment-là, Louis XVI pense qu'il est très malin.
Ce qui est assez fou, c'est ça, c'est qu'on le voit, il est dépeint sur les tableaux que vous évoquiez, Arnaud. Monsieur Arnaud, il est dépeint avec un sourire en coin, comme très fier de son indice.
Tout à fait.
Alors que c'est évident. La suite, on la connaît. Les Français se ruent vers la Bastille, mais la vraie Bastille, et commencent à la démonter pierre par pierre.
Pierre par prière, donc voilà, la plus grosse démolition de l'histoire de France.
Complètement, oui.
En une journée, on démonte la Bastille entière.
La Bastille, dès 8h du matin, les Français commencent à démonter la Bastille. Louis XVI ne comprend pas. Il pense que c'est encore une fausse route des Français. Il pense encore avoir gagné et que les équipes ne vont pas trouver la Bastille. Mais vers 10h30, Louis XVI prend peur.
On va revenir à ce petit déjeuner. On a une scène qui a été dépeinte aussi par Léonard de Vinci, qui est Louis XVI apprenant la prise de la Bastille. Ce tableau, on le voit en train de manger sa biscotte devant son bol de céréales, et avec un conseiller qui vient lui annoncer que les Français ont l'air d'avoir compris et que les Français sont en train de démonter la Bastille, la grande Bastille, et on voit Louis XVI avec un regard perdu dans le vide, avec sa biscotte qui trempe dans son bol de céréales.
Et en fond, on aperçoit Catherine, son épouse, cracher son café.
Oui, donc, terrible.
De la sorte.
Terrible scène pour Louis XVI qui comprend que la fin est proche.
À cette époque-là, à ce moment-là précis, il a un peu peur, mais il garde de l'espoir.
Il garde de l'espoir.
Il garde de l'espoir et appelle son chef des armées.
Il lui demande de déplacer la Bastille en douce, petite Bastille.
Il demande de déplacer la petite Bastille. Donc là, affaire d'État, hein, là c'est, on parle de quelque chose d'illégal, sans huissier de justice.
Et donc là, évidemment, avec tous les bastonneurs, toutes les équipes de recherche qui entourent la Bastille, donc il y avait déjà énormément de violence et de combats sur place. L'armée et le chef des armées ne peuvent évidemment pas passer, pas atteindre le bâtiment.
Ils se font massacrer.
Ah non, c'est un massacre, c'est un véritable pain de sang ce jour-là.
C'est un massacre.
Et sur les coups de 15h30, quelqu'un s'écrie « J'ai pris la Bastille ».
Donc quelqu'un, 15h30, trouve la Bastille. Est-ce qu'on sait qui est cette personne et où elle était cachée précisément?
Bien sûr, on le sait. C'est celui qui deviendra ensuite l'empereur de France, c'est Napoléon, tout simplement, qui succède à Louis XVI. Napoléon attrape cette Bastille, donc à l'époque qui était pas connu, hein, il était dans un parti et c'était bien avant son règne. Et il attrape la Bastille, il dit j'ai pris la Bastille, et là les combats s'arrêtent, tout le monde reconnaît la victoire de Napoléon.
Elle était cachée dans un tas de foin, dans une cellule, la B12.
Donc la cellule B12, voilà, avec la petite Bastille, et boum, ça met fin à ce jeu qui avait quand même tenu en haleine tout un peuple pendant plusieurs mois.
Mmh. Alors, Louis XVI tente de fuir, parce qu'il sent, il sait que ça ne sent pas bon pour lui. Malheureusement, le peuple le rattrape, et il est remis aux mains de Napoléon. Mmh.
Alors, que fait Napoléon? Comment est-ce qu'il apparaît? C'est la première apparition de Napoléon en tant que personnage public. Avant, c'était n'importe qui. Voilà. Que décide-t-il de faire avec Louis XVI et quelles sont, on va dire, j'ai envie de dire, les premières minutes et premières heures de son règne?
Alors, ce qui est étonnant, c'est que Napoléon, à l'époque, est très jeune. Il a 17 ans.
Il a 20 ans. Il est né en 1769.
20 ans, oui. Pardon, oui. Du coup, son jeune frère, Napoléon II, lui, a 17 ans. Oui. Napoléon a 20 ans. Et il fait partie du groupe de recherche des jeunes. Donc, c'est un groupe assez émergent. Ils étaient très peu nombreux. Ils n'avaient pas beaucoup de logistique par rapport aux gros partis politiques qui étaient en recherche. Mais ils, quand même, arrivaient à tirer leur épingle du jeu. Et ont réussi, à la fin, à trouver cette petite Bastille. Et donc, ce sont eux qui ont reçu, en fait, Louis XVI dans leur groupe, dans leur petite cellule. Ils l'ont reçu et ils l'ont dit, c'est terminé.
C'est terminé, Louis. Ils décident de lui accorder clémence, toutefois. Et donc, Louis XVI, après avoir été une première fois capturé, repart en calèche. Et c'est là qu'on connaît tous la fin tragique de Louis XVI. Il se prend une calèche en pleine face,
accident de calèche.
Droit dans le fossé, c'est terminé pour Louis XVI et pour sa femme Catherine. Donc Louis XVI décède, mais de toute façon l'histoire continue ailleurs. Napoléon prend Versailles et prend les clés du pouvoir, et sa première mesure, tout le monde l'attend. Quelle sorte de régime politique on va bien avoir? Napoléon décrète qu'il abandonne la couronne et le droit divin, mais il part en guerre contre la Russie.
Il devient empereur de France et il part en guerre contre la Russie. Mais alors, avant ça, c'est quand même un rappel que c'est un jeune de 20 ans. Hein, et donc, forcément, son deuxième décret, c'est ce soir, grosse fête. Et donc, grosse fête dans les rues de Paris. Tout le monde fait la fête. On chante des chansons. Tout le monde scande Louis, c'est fini. Louis, c'est fini. La Bastille a été prise, vive Napoléon. Malgré tout ce qui aura suivi dans le règne de Napoléon, ça aura été un grand moment de liesse et de rassemblement du peuple français.
Et dernière mesure, Napoléon reconstruit ensuite pierre par pierre la Bastille et en fait ce qu'on connaît aujourd'hui, la célèbre boîte de nuit.
La Bastille.
Très bien, les premières heures du règne de Napoléon, après avoir découvert la petite Bastille, ce sera le mot de la fin. Merci à nos invités, merci à vous qui nous avez écoutés. C'était l'Histoire avec un grand I pour un épisode aujourd'hui consacré à la prise de la Bastille. Vous retrouvez l'émission en podcast sur prune.net, toutes les plateformes d'écoute et sur Instagram, compte l'Histoire avec un grand I. Rendez-vous la semaine prochaine pour étudier un nouveau fait historique.
C'était l'Histoire avec un grand I. Chaque semaine, retrouvez la fine équipe de l'Histoire avec un grand I afin de revisiter en improvisation totale un fait historique qui n'a jamais eu lieu.